Bibin, le magazine qui explore, qui voyage, qui découvre. Suivez nos micros sur les chemins de traverse.
Nous voici juste à la sortie de Pont-Croix en Cap-Sizun. La petite cité a gardé de jolis restes de son passé glorieux que nous allons découvrir en faisant quelques pas en direction des champs et des bois le long du fleuve Guayenne. Nous voici dans le passé, en 1358. Dans cette prairie est en train de naître un village du Moyen-Âge, avec déjà plusieurs bâtiments construits à la manière d'eux. C'est de l'archéologie expérimentale. Et cet archéosite de Pont-Croix, on le doit notamment à Michel Le Guillou, alias Alan Tiwarlen, le seigneur local, et à moult de ses gens.
L'association, c'est le comité pour la fête médiévale de Pont-Croix, qui a été créé en 2006. Alors la fête médiévale existe depuis 2003. Elle a été créée d'abord par l'association Vapache, qui a fait une édition. En 2005, c'est l'office de tourisme de Pont-Croix qui a fait la deuxième. Et l'asso a été créée à la suite. Donc on a fait des éditions centre-ville jusqu'en 2011-2013. Et ensuite, on a décidé de créer ce projet de village reconstitué.
C'est un terrain qui appartient à qui, ce terrain ?
Alors, c'est un terrain communal. La commune est maître d'œuvre sur le projet.
Qu'est-ce qu'elle vous a commandé ?
Ah ben, c'est elle nous commande ça, en fait. Donc c'est elle qui s'est chargée du permis de construire, parce qu'il faut un permis de construire quand même pour ça, parce que c'est un terrain, on a changé le plan d'urbanisme, etc. Donc de 2014 à 2016, il y a eu toute cette phase administrative, et depuis 2016, on construit.
Alors qu'est-ce que vous êtes censé construire ? Enfin, qu'est-ce qu'il y a déjà et qu'est-ce qu'il y aura à terme ?
Il y a déjà pas mal de bâtiments, on fait à peu près 2 maisons par an. Donc à terme, c'est un village de 25-30 maisons.
Sur combien de mètres carrés à peu près ?
Il y a presque un hectare.
Et alors, c'est pas n'importe quelle maison, enfin, il y a différents types de maisons, d'après ce que je vois en tout cas.
Oui, voilà, il y a un pan militaire, donc avec une motte castrale recréée. C'est un plan de motte castrale qui existe sur la commune de Mahalon à côté. Donc on a reproduit cette motte castrale. Ensuite, on fait des maisons d'artisans, donc une forge, ce qui fait vivre un village au Moyen-Âge. Donc on a un atelier de potier avec des fours, on a une forge, et après on a des bâtiments d'accueil comme l'hôtellerie qu'on a là-bas, et des maisons d'habitation, des maisons d'artisans.
Et donc nous sommes en 1358, enfin à peu près.
Oui, c'est ça. Ouais.
Et pourquoi c'était cette date en fait ? C'était la fondation de Pont-Croix ?
Non, pas du tout. Non, c'est simplement une période de l'histoire qui nous intéresse beaucoup, d'où nos costumes, etc. En fait, on reconstitue vraiment cette période de l'histoire qui est la guerre de succession de Bretagne. C'est une période très riche du milieu du XIVe siècle. Et on se base de 1340 à 1360 pour recréer nos armures, nos modèles de costumes, etc. C'est une mode très précise. Et du coup, d'où comme on s'occupe aussi de l'association, forcément on choisit cette date-là.
Et vous trouvez toutes les sources qu'il vous faut ?
C'est compliqué, mais oui, on a quand même beaucoup, beaucoup de sources. Ouais.
Ouais. Ouais, c'est relativement récent, on va dire. Et alors, vous construisez 2 maisons par an. Alors, ces maisons, en général, elles sont faites en quoi ?
C'est du bois, de l'ossature bois, avec un remplissage en torchis et la toiture, soit du bardeau, soit de la chaume. Aussi, on est en train de monter un toit de chaume. Ça pouvait être de l'ardoise clouée, ça pouvait être de la tuile aussi. Plus tard, on fera tout ça.
Et où est-ce que vous vous approvisionnez en matières premières ?
Dans le bois à côté, beaucoup. C'est beaucoup local, la terre est locale. Quand on fait une fondation pour une maison, la terre nous sert à faire les murs. Le bois, on a un accord avec la mairie et l'Office national des forêts qui nous a marqué des arbres à abattre dans la forêt d'à côté. Voilà, donc on se sert vraiment, c'est très très local, on se sert de tous les matériaux du coin.
Et vous êtes combien pour construire les maisons ?
On est entre, on n'est pas très nombreux en fait, on est vraiment une dizaine à s'occuper de la construction et tout le temps entre 2 et 4.
Puis de toute façon après une fois que les maisons sont construites, il y a tout l'aménagement intérieur j'imagine.
Ouais c'est ça, oui, un petit peu de mobilier, puis oui tout l'intérieur. Ouais. Ouais.
Là c'est vous qui fabriquez aussi ?
Voilà, on fabrique tout.
En fait, qu'est-ce que vous fabriquez pas ?
Moi, ce que je fabrique pas, moi, personnellement, c'est mon casque quand je me bats en armure, parce que j'ai pas confiance en mon travail. Simplement, je confie pas ma tête à moi-même. Mais c'est tout. Autrement, non, on construit tout.
Et donc, vous travaillez beaucoup avec des artisans, enfin des professionnels, en fait ?
Oui, ouais.
Parce que là, pour construire une maison, ça s'improvise pas. Comment vous avez fait ? Vous avez fait une formation ? Qu'est-ce que vous avez fait ?
Non, on n'a pas de formation, pas du tout. Non. On est issus un petit peu certains du bâtiment, enfin il y a des savoir-faire quand même, bien sûr.
Et c'est bon, là maintenant vous maîtrisez
C'est bon, ah oui, impeccable.
Donc 25 maisons à terme, c'est ça ce que vous disiez ?
Oui, c'est ça.
Ça sera fini quand alors?
On verra bien. C'est quand ça sera fini. On n'a pas de deadline, c'est fini, voilà. Puis de toute façon, on modifiera par la suite. Enfin, ça va être un chantier quand même permanent, je pense. Ouais.
Et votre association, en tout, il y a combien de membres?
On est un peu plus de 200.
C'est ça. Et donc, qu'est-ce que vous faites en dehors de la construction de l'archéosite? Qu'est-ce que vous faites?
On fait des animations aussi également sur d'autres sites. Donc, on peut être demandé par exemple, par les châteaux de Loire-Atlantique. On va aller régulièrement au château de Clisson, Châteaubriand. On est déjà allé faire des animations historiques, du coup, pour les sites. D'autres fêtes médiévales, on se déplace, quoi. On se déplace aussi pour faire de grosses reconstitutions à l'étranger. Un petit peu partout, en Allemagne, en Italie, un petit peu partout en Europe.
Là, vous êtes tous bénévoles. Est-ce qu'il y a des salariés?
Oui, il y a un salarié, oui. Ben, là, pour l'instant, il tient la caisse. Si, autrement, c'est lui qui construit, en fait. C'est lui qui prépare les chantiers de bénévoles, en fait, en hiver.
Donc, parce que c'est l'hiver, essentiellement.
Oui, c'est l'hiver. L'été, on ouvre au public, donc l'été le site se repose un petit peu, et puis nous aussi.
Bah, vous faites les animations l'été, quand même. Il n'est pas mort. Voilà, le site, il vit.
Oui, il vit, oui, mais enfin, on fait des animations, on ne construit pas, quoi.
D'accord, ok. Et il y a deux animations par été, c'est ça? Trois en comptant la fête médiévale?
Oui, c'est ça. Pour l'instant, on est parti sur ce format-là. Ouais.
Non,
ça pourra évoluer.
Ça pourra évoluer, complètement.
Est-ce que vous êtes allé faire des repérages ou des voyages d'études dans d'autres sites du type, je pense à Guédelon, bien sûr, qui est le plus connu, mais il y en a d'autres sans doute?
Oui, si, on s'est promené un petit peu. Ouais. On est parti regarder un petit peu comment font les autres. Il y a un petit village en Corrèze là, qui est très très intéressant, qui est construit par un père et son fils. C'est totalement privé, ils sont agriculteurs, ils font par passion, ils construisent un village en pierre de maisons médiévales. Bon, il y a Guédelon qui est bien connu, il y a d'autres sites encore qui sont montés par des entreprises, il y a le site de Mellerand à côté, le village de Lanmille aussi qu'on connaît bien. Enfin, il y a quelques sites, il n'y a pas beaucoup de sites, mais il y en a quelques-uns.
Alors, allons donc visiter cet archéosite de Pont-Croix. On va passer la tour, l'atelier du vanier, une habitation. Tiens, on va entrer dans la taverne puisqu'elle est construite, plus exactement l'hostellerie. Il y a deux jeunes sires qui s'opposent pacifiquement autour d'un jeu d'époque. Timothée Binoche et Gaëtan Lebrochec sont des Tarvenus, une association de reconstitution historique basée près de Niort qui couvre la période de 1360 à 1415.
Le jeu du renard et des poules, c'est un peu l'ancêtre du jeu de dames où en fait il y a un renard qui doit manger des poules, tout simplement. Le plateau est un plateau en bois classique, frêne. Il est en forme de croix. Et on découpe des pions dans des rondins de bois, et des pions blancs pour représenter les poules, donc on peut les peindre en blanc, et un pion qu'on peut peindre en noir pour représenter le renard.
Alors en tout, combien de pions?
En tout, il y a 15 pions poules et un pion renard.
Et ce qu'il faut dire, c'est que le plateau est, pas quadrillé, mais en fait...
Le plateau est creusé avec des sortes de petites rigoles qui sont des chemins qui peuvent emprunter les poules ou le renard. Il y a des chemins tracés pour faire le déplacement sur le plateau. On peut aller à gauche, à droite, en diagonale. Il y a des endroits où on ne peut pas partir en arrière, donc il y a des petites zones de piège. Mais c'est fait pour être totalement libre de nos mouvements, pour forcer l'adversaire à faire des erreurs en fait, de placement. Le renard, son rôle pour manger une poule, c'est comme l'ancêtre du jeu de dames, faut qu'il isole une poule pour pouvoir passer par-dessus et la manger. Et le rôle des poules, qui sont 15 quand même, c'est d'être en bande finalement, pour finalement pas se faire manger et de forcer le renard à reculer et de plus pouvoir bouger. Donc le renard attend un peu la faute de l'adversaire, des poules, pour passer dans la défense et... derrière et passe et manger tout le monde.
Ça paraît, ouais, comme ça paraît pas très équitable en fait. Qu'est-ce que vous êtes renard, c'est ça?
Sur cette partie-là, ouais, je suis renard et du coup j'attends qu'il fasse une faute en fait pour pouvoir manger une des poules.
Et il est comment là?
Il s'en sort bien. J'ai juste mangé une poule.
Vous avez déjà été renard et on peut gagner en étant renard.
Le renard, il peut gagner si l'adversaire fait vraiment des fautes, d'inattention et les grosses erreurs comme le jeu de dames où il peut enchaîner plusieurs poules pour les libérer vraiment dans la défense et se retrouver des poules isolées un peu partout. Il peut gagner, mais c'est difficile. Ouais, c'est un bon jeu de réflexion pour les enfants et adultes.
Donc ça peut durer très longtemps.
Ça va, c'est pas un jeu d'échecs. Ça va, ça va.
Et ça existe depuis combien de temps, on sait, ce jeu?
Celui-là, ils ont eu des ressources au début 14e, et il date d'avant. Époque mérovingienne, il y avait des jeux un peu de ce genre-là, mais avec des règles différentes. Comme le jeu d'échecs où on pouvait jouer au dé en même temps que jouer aux échecs, donc il y avait des variantes un peu étranges, mais c'est un jeu qui date de Mathusalem.
Mais comment sont documentés ces jeux? Il y avait des manuels de jeu? Enfin, comment on sait à quoi ils jouaient en fait?
S'ils disent que c'est mentionné dans, en première fois en France en 1534 par Rabelais. Et après, ils ont trouvé un graffiti dans un cloître du 13e.
C'est une bonne source iconographique. Et après, on a des sources aussi parce que c'est des jeux. Certains jeux sont faits par des nobles, donc il y a des codes, c'est ressourcé, il y a des écrits. Et parce que les nobles aimaient bien jouer à des jeux de réflexion, des jeux de dames, etc. Donc on a plus d'écrits facilement pour ce genre de caste, on va dire, que des jeux de taverne.
Parce que là, on est dans la taverne, faut préciser, mais d'accord. En fait, c'est, ouais, ce jeu-là, on n'y jouait pas forcément à la taverne, quoi.
C'est venu tardivement, je pense, dans la taverne, mais on pouvait y jouer avec des jeux d'argent. C'était un peu interdit, donc il fallait faire attention, mais on pouvait faire des paris pour qui gagnait, etc.
On ne peut pas jouer à des jeux de société sans lumière. Et justement, au fond de l'hôtellerie, il y a Eric qui s'est installé avec sa collection de lampes médiévales, voire plus anciennes encore.
Je présente l'éclairage au Moyen-Âge, en fait, et là je présente des lampes à huile de notre période de reconstitution médiévale, 1350. Mais je montre autrement des lampes à huile de différentes époques et j'explique un peu leur fonctionnement et puis l'histoire en fait de ces lampes depuis la préhistoire jusqu'à aujourd'hui où on les utilise encore à travers le monde, quoi.
Alors comment, quand est-ce que c'est apparu la lampe à huile proprement dite ?
Ça peut être très ancien en fait, mais on en retrouve les origines dans la grotte de Lascaux. On a retrouvé une lampe à huile qui avait la forme d'une grosse cuillère en pierre et donc ce principe ne s'est jamais perdu en fait, on l'a retrouvé tout au long de l'histoire. Alors les formes des lampes à huile ont changé au cours de l'histoire, elles ont eu des formes différentes suivant les époques et puis les régions du monde. Et j'en ai quelques-unes de différents pays du monde, byzantines, sumériennes, vikings, et de notre région à nous, quoi, en France. Voilà.
Alors, quand on dit à huile, c'est peut-être, en fait, c'est à matière grasse, en fait, c'est ça ?
Oui. En fait, on dit à huile parce que c'est, c'est le terme le plus courant qu'on utilise, mais c'est des lampes qui peuvent également fonctionner avec de la graisse animale, et donc elles fonctionnent avec toutes les graisses animales, et pour les huiles également, avec toutes les huiles végétales.
Et qu'est-ce qui est le mieux finalement à l'usage ?
C'est aussi facile avec l'un que l'autre. Et donc, oui, il n'y a pas de problème à les utiliser, soit l'un, soit l'autre. C'est suivant les ressources qu'on avait à l'époque, quoi, en fait. Par exemple, dans notre région, en Bretagne, je pense que c'était plus facile d'avoir de la graisse animale. Et peut-être dans le bassin méditerranéen ou le sud de la France, de l'huile végétale, c'était plus disponible.
La base de la lampe à huile, c'est quoi ? C'est un récipient minéral ou en céramique, c'est ça ?
Oui, un récipient en céramique et une mèche de tissu. Ici, ce sont des chutes de lin. Parce que c'était le tissu, un des tissus qu'on portait à l'époque. Et donc ce sont des chutes trempées soit dans de l'huile ou de la graisse animale. Et ensuite il suffisait de l'allumer et ça servait de mèche comme dans une bougie, la mèche de la bougie.
Évidemment là il y a plein de récipients, mais en gros on met l'équivalent de quoi comme quantité de graisse ou d'huile ?
2 ou 3 cuillères à soupe d'huile par exemple, et pour le tissu c'est vraiment une petite bande de tissu, grande comme 2 doigts de la main à peu près, voilà.
Et ça dure combien de temps ?
Ça dépend des conditions météo, mais si on a de bonnes conditions, ça peut durer une demi-heure, 3/4 d'heure. Et autrement, en plein vent, il suffit de l'alimenter, de rajouter de l'huile et des mèches, et ça peut durer éternellement aussi.
Voilà, c'est un petit feu en fait qu'on veille. Et bon, alors la capacité d'éclairage, c'est pareil, ça dépend peut-être de la taille. En gros, ça éclaire une petite pièce, quoi.
Oui, mais je dirais qu'une seule lampe à huile, ça doit éclairer à peu près comme 10 bonnes bougies. Et l'avantage des lampes à huile par rapport à des bougies, c'est que même en plein vent, elles ne vont pas s'éteindre. Elles pourront même tenir presque avec un vent de tempête, quoi. Moi, je trouve ça magnifique.
Et oui, et donc en 1358, en 1350, c'était quoi en gros le type standard de la lampe à huile ?
Elle était en terre, toutes les lampes à huile que j'ai là sur ma table pour présenter au public, en fait, ce sont des lampes à huile, des représentations historiques en fait, qui nous sont reconstituées par une potière qu'on voit souvent en fait, elle s'appelle Karine Caroul. Et donc, ce sont des sources historiques.
Lesquelles, par exemple, vos sources, c'est quoi ? C'est dans des bouquins, sur des vitraux ?
Oui, ou ça peut être des sources archéologiques, surtout archéologiques en fait. Et,
Donc des objets qu'on a retrouvés, quoi.
Oui, des objets qu'on a retrouvés. Et c'est pour ça que, enfin bon, elles sont un peu particulières, mais ce sont les formes qu'elles avaient à ces différentes époques.
Et donc vous disiez, aujourd'hui encore, on utilise les lampes à huile.
Oui, on en utilise. Et ce matin, j'ai rencontré un monsieur de Savoie qui me racontait que quand il était enfant, on utilisait des lampes à graisse pour s'éclairer dans sa région. Oui.
Et alors maintenant qu'on se méfie de tout, il n'y a pas des dégagements, je ne sais pas, de particules ou de choses comme ça?
Ah si, là, y a des émanations, mais à l'époque, ça ne nous gênait pas beaucoup. Et en général, ici, on est en plein air, les locaux sont bien aérés, donc il n'y a pas trop de problèmes.
Vous en avez combien dans votre collection maintenant, des lampes à huile?
Ben, elles sont toutes sur la table, là, et donc je sais pas, ça doit faire une dizaine de lampes à huile, quoi, à peu près.
Ouais. Et donc les plus anciennes?
Les plus anciennes, ben, ce sont des lampes à huile byzantines et sumériennes qui datent du 8e siècle de notre ère.
Sauf que vous avez carrément des coquillages qui servent de lampes à huile, non?
Oui, en fait, ça c'est moi qui l'ai imaginé en fait, c'est-à-dire que j'ai pensé que des hommes préhistoriques ou même de notre période pouvaient utiliser ce genre de récipient en fait, qui conviennent parfaitement en fait pour une lampe à huile.
C'est très possible, on n'en a pas retrouvé encore quoi, avec des traces de gras dedans et de combustion.
Ben, peut-être qu'on en a retrouvé, mais moi j'en ai pas entendu parler quoi.
Et ça, c'est quoi, là?
Ce sont des pierres à feu, en fait. Et donc, c'est ce qu'on utilisait pour allumer du feu à notre époque médiévale qu'on reconstitue. Mais ça existe toujours, en fait, dans certaines régions du monde, l'utilisation de pierres à feu. En fait, la pierre à feu, c'est un morceau de métal et qu'on utilisait avec un silex pour faire des étincelles. Et donc, en même temps qu'on faisait des étincelles, on utilisait un champignon qu'on appelle l'amadou. Hein, qui vient de l'amadouvier. La particularité de l'amadou, en fait, c'est qu'il ne va pas s'enflammer avec une étincelle, mais au contraire, il va se consumer lentement en formant une braise très chaude, ce qui va permettre d'allumer un feu. Et ensuite, de ce feu, bah, on pourra prendre, par exemple, des braises pour allumer une lampe à huile ou autre chose.
On va retrouver la lumière du jour. Tiens, on passe devant la forge, indispensable à l'époque aussi pour façonner toutes sortes d'objets métalliques du quotidien ou plus précieux. Et à propos d'objets, voici Gwen et Meriadoc qui nous présentent une palette d'instruments ou d'ustensiles du quotidien de toute classe sociale.
On a des objets en os, on a un peigne en os, on a des dés en os qui n'ont pas une forme de dés comme on les connaît habituellement, qui ont une forme plus allongée. On a aussi des pendentifs en os anthropomorphiques. Alors on a du mal à voir, mais c'est censé avoir une forme un peu humaine ou animale. Donc on a une corne à boire qui n'est pas une corne pour boire tous les jours. Pour tout le monde, c'est une corne de festin que les guerriers en festin se passaient pour boire chacun leur tour un liquide comme de l'hydromel. Ou... Après on a des fibules. Toutes sortes de fibules.
C'est pour accrocher les vêtements, souvent les manteaux, donc sont accrochés avec des fibules. Et c'est différent selon l'endroit d'où on vient, l'ethnie qu'on représente.
Elles sont en quoi en général?
Ça peut être en bronze, ça peut être en alliage cuivreux, il y en a même en argent.
C'est un couteau.
Mais c'est un petit couteau quand même. Il servait à quoi?
Probablement à manger.
À cette époque-là, un couteau, ça sert à peu près à tout. Ça peut être à manger, ça peut être pour travailler, ça peut être... C'est vraiment l'outil à avoir tout le temps accroché à sa ceinture.
Il y a d'ailleurs des ceintures.
Ce ne sont pas des ceintures pour mettre sur la taille. C'est des ceintures qu'on met en bandoulière, c'est pour porter les épées, les spatas.
Celle-ci, par exemple, c'est un singulum. C'est pour, donc oui, c'est une ceinture d'apparat, c'est pour porter les spatas, les épées.
Donc là, que ce soit pour les couteaux ou pour les ceintures, ce qu'on retrouve en fouille, ce sont les parties métalliques. On retrouve seulement la lame du couteau, ni l'étui en cuir, ni le manche en bois. Et ensuite, on fait appel à des artisans reconstituteurs qui, en étudiant les textes, les images, etc., tentent de reproduire ce qui aurait pu être le reste du couteau ou le reste de la ceinture.
Alors que l'os, ça se conserve bien. C'est comme ça qu'on sait qu'il y a des dés.
Voilà, c'est ça. L'os, on a dû les retrouver. Tout ça sont des copies de choses qu'on a retrouvées. Il n'y a rien d'original, bien sûr, puisque tout ce qu'on retrouve la plupart du temps est très abîmé. Et donc, on tente de reconstituer ce qui aurait pu être... On a également un autre pendentif en os, qui est un pendentif de style copte, donc d'Afrique du Nord, comme les chaussures qui sont juste là. Qui ont aussi, qui sont brodés à la feuille d'or et qui sont en motif copte. Tout ça, ce sont des objets prestigieux, hein, très prestigieux.
Oui, c'est ce que j'allais dire, vous disiez des objets du quotidien, mais enfin bon, de pas n'importe qui.
Là, ce sont des objets prestigieux, mais on a les mêmes choses. Là, j'ai deux fibules qui attachent mon voile. J'ai, au lieu d'avoir de la vaisselle en céramique comme on a là, on a de la vaisselle en bois, mais ce sont les mêmes choses, mais en moins prestigieux.
Parce que vous n'êtes pas encore princesse, hein, vous n'êtes pas encore passée princesse.
Bientôt j'aurai fini ma tunique en laine. Et donc là on a une fibule en forme d'arbalète qui est portée uniquement par les officiers romains.
Bah, les derniers, parce que si on est au 5e siècle, il n'y en a plus
les
beaucoup.
Derniers, voilà, les derniers.
Et les verres là, qui sont très curieux. C'est...
Ce sont des verres avec des motifs qui viennent plutôt de Rhénanie, donc plutôt germain, plutôt germanique, qui ont été transportés. Et voilà, on travaillait déjà le verre. Tous ces objets sont très travaillés. C'est pour montrer que déjà au 5e siècle, tout était très travaillé. C'est pour montrer un peu qu'il y avait déjà du commerce international, notamment maritime, parce que ça colle avec le concept de ce week-end. Donc. Il y avait déjà beaucoup de commerce. Les assiettes en céramique qui sont là viennent d'Europe du Sud. Donc ceux-là, de la Rhénanie. Voilà, ça vient d'un peu partout. Ce style de fibule, très travaillé aussi avec les petits oiseaux. C'est un style qu'on retrouve autant en Bretagne insulaire qu'en Bretagne ici. Donc on voit qu'il y avait des échanges de partout.
Et puisque l'archéosite de Pont-Croix est situé au bord du Guayenne, qui autrefois faisait de la ville un port marchand prospère en lien avec Audierne, on y échangeait des tissus, du fer, des poissons séchés avec l'Angleterre. Et pour ça, il fallait des bateaux.
Je m'appelle Valentin, je fais partie de l'association Arsou d'Ardède ainsi que de l'association Gouard en Aude. L'association Gouard en Aude, c'est une association qui a pour but de faire naviguer des bateaux historiques. Donc nous, pour le moment, dans notre association, nous en avons 4. Nous avons 2 curags de 12 et 10 mètres. Un curag, c'est un bateau qui a une armature en bois et qui est recouvert d'une coque en cuir. Donc les peaux, ce sont des peaux de cuir qui sont cousues les unes entre elles. Ensuite, on vient les goudronner avec de la sève de hêtre carbonisée. Qui va nous permettre d'étanchéifier le bateau et ensuite on peut également le graisser lorsqu'il y a besoin. Ce goudron va nous permettre d'éviter qu'il y ait de la vie dessus, donc des coquillages, des algues, etc.
Anti-fouling d'époque, enfin de quelle époque d'ailleurs ?
Oui, c'est ça, c'est de l'anti-fouling. Donc nous, nos bateaux, ils sont gréés comme au 10e siècle, donc c'est-à-dire que c'est des bateaux, c'est ce qu'on appelle des hypothèses navigantes, mais c'est probablement ce que les Bretons avaient au moment des invasions vikings en Bretagne au 10e siècle. Ils sont d'une grande souplesse ces bateaux-là, et ce qui ont un certain avantage par rapport aux bateaux qui pouvaient être utilisés par les vikings, parce que du coup, quand il y avait besoin d'aller se mettre à l'abri, on pouvait aller se cacher dans les cailloux et eux ne pouvaient pas nous suivre, donc c'est quand même un sacré avantage.
Et c'était à rame, il n'y avait pas de voile.
Si, si, il y a des voiles. Donc nous, nos bateaux, ils ont deux mâts, donc un grand mât et une misaine, qui sont à voile carrée. Donc ce qui fait qu'on remonte assez mal au vent. C'est des bateaux qui sont marins, mais qui quand même, dès que le vent est un peu contraignant, ça marche un peu moins bien. Mais du coup, quand il n'y a plus de vent, eh bien, c'est à l'aviron et puis du courage.
Et vous, on pouvait potentiellement aller loin, quoi.
Oui, là, aller loin. Donc ces bateaux-là, ils nous viennent d'Irlande. C'est ce qu'on dit, les saints fondateurs bretons seraient arrivés d'Irlande et de Grande-Bretagne avec ces bateaux-là. Et ça a donné naissance à la légende des bateaux en pierre. Parce que donc nous... On fait du feu, donc on a des auges en pierre qui nous servent à la fois de lest et pour faire le feu, et c'est un confort qui est non négligeable, parce que dès que le temps est un peu froid ou autre, et bah, si on peut manger chaud pour le moral, c'est quand même bien, et donc ces bateaux-là, comme tout est en naturel, bah, ça s'est décomposé au bout d'un moment, et il ne restait plus que les auges, et ça a donné la naissance des auges en pierre, des bateaux en pierre.
Mais en fait, les auges étaient à bord des curags.
C'est ça, c'était à bord, et ça permettait de se réchauffer, tout ça, enfin c'était...
Le poêle de bord, quoi.
Ouais, ouais. C'est ça. Parce qu'au début, quand on a récupéré les bateaux, on était avec un réchaud moderne, et c'était pas pratique pour faire manger, et on s'est rendu compte vraiment, au final, sur un bateau historique, ce qui marche le mieux, c'est la méthode historique, et donc l'auge en pierre.
Donc vous avez 2 curags, et deux autres bateaux, alors ?
Oui, on a un fairing qu'on a récupéré récemment, donc un fairing, c'est un bateau à clin, donc c'est des planches de bois qui sont rivetées les unes avec les autres. C'est un bateau qui est gréé en 14e siècle, donc avec encore une fois une voile carrée et une barre qui est à l'arrière du bateau et non une barre latérale. Et le dernier bateau qu'on a, et c'est une yole de Bantry, c'est un bateau qui était utilisé au 18e siècle à l'époque napoléonienne en gros. Et celle-ci, elle navigue là cette année, elle a fait un petit périple, donc elle est partie de Kerlouan, elle a été jusqu'à Saint-Malo, puis elle est redescendue dans le sud et je crois qu'elle est vers l'Orient maintenant.
Et le Briox, c'est lequel alors ?
Le Briox, c'est le Curac, c'est notre premier bateau qu'on a eu. On l'a récupéré en fin 2017. Et lui, c'est un peu notre bébé parce que donc on a passé pas mal de temps à l'entretenir. On a fait un tour de Bretagne avec en 2018. On est parti de Kerlouan, on a été jusqu'à Dinan, Saint-Malo, on a descendu les canaux d'Illérance, on est ressorti à La Roche-Bernard. À La Roche-Bernard, on avait récupéré une cargaison de sel et de vin qu'on a revendu ensuite le long de notre voyage. On est arrivé jusqu'à Pont-Croix pour la fête médiévale, donc à l'archéocyte de Pont-Croix pour la fête médiévale, où là on avait à nouveau revendu notre vin. Et ensuite on est remonté à la fin de ce voyage-là dans le Nord Finistère chez nous pour l'entretenir bien comme il faut.
Et ce type de voyage est quand même justifié, fondé historiquement en fait.
On peut légitimement le penser. Parce qu'en Bretagne, en fait, c'est quand même un pays qui est très marin. Et par conséquent, utiliser ces bateaux-là, c'est plus que plausible. On trouve des textes, on trouve des enluminures dans lesquelles c'était utilisé. Et donc oui, c'était utilisé. Nous, ce qu'on veut faire, c'est justement faire vivre cette tradition-là. Donc c'est pour ça qu'on réutilise ces bateaux. Ces bateaux-là qui sont toujours utilisés en Irlande, donc les pays celtiques. Et donc voilà.
L'archéocyte de Pont-Croix dispose d'un site internet et d'une page Facebook sur lesquelles vous pouvez suivre l'avancée du projet et connaître les dates d'ouverture et d'animation du village. C'est de juillet à septembre.